C'est pour partager ce moment de communion, quelque chose de précieux pour chacun de vous, je pense, pour moi aussi. Moment précieux pour nous mettre à l'écoute. Ah, merci. Ah oui, un peu de vent, ouais. Pour nous mettre à l'écoute de paroles de vérité. Comme le disait Pierre à Jésus, à qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vérité. Seigneur, conduis-nous vers cette vérité. Amen. Donc, le passage, j'espère que vous entendez bien, là, ce matin, le passage qui fait l'objet de notre méditation se trouve dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 11, et j'en lis les versets 2 à 11. Jean, dans sa prison, il s'agit de Jean-Baptiste, Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ. Il envoya ses disciples lui demander, « Est-ce toi, celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez raconter à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les infirmes marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts se réveillent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une cause de chute. » À leur départ, Jésus se mit à dire aux foules à propos de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? Un roseau agité par le vent ? Alors, qu'êtes-vous allé voir ? Un homme vêtu avec raffinement ? Mais ceux qui s'habillent avec raffinement sont dans les maisons des rois. » Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, je vous le dis, Aimée est plus qu'un prophète. C'est à son sujet qu'il est écrit, « Moi, j'envoie devant toi mon messager pour frayer ton chemin devant toi. » En vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean le baptiseur. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Jusqu'ici, notre lecture. Alors, qui est Jean le baptiseur? Alors, il y a des propositions que donne Jésus. Un roseau agité par le vent, qui, à défaut de se rompre, se plie à tous les vents, hein, c'est-à-dire quelqu'un qui serait influencé par tous les courants de pensée. La question se pose dans la mesure où Jean, après avoir prêché la repentance, après avoir fait part de ses doutes, influencé sans doute par sa situation, et par les conceptions de son époque, est-ce que c'est pour autant un roseau agité par le vent? Bien, la réponse sous-entendue, eh bien, non. Un homme richement vêtu, c'est-à-dire un homme de pouvoir, hein, eh bien, là aussi, Jésus exclut cette possibilité. Jean-Baptiste n'est pas l'hôte de la maison du roi. Au moment où Jésus parle, tout le monde sait que s'il est l'hôte du roi, c'est dans ses prisons. Une prison, du reste, qui était juste à côté du palais. Jean-Baptiste, donc, n'est rien de tout cela. Hein, c'est un prophète, et même un très grand prophète, avec un rôle exceptionnel, celui d'annoncer la venue du Messie. Jésus lui applique une prophétie de Malachie, hein, lorsqu'il dit « J'envoie devant toi mon messager ». En citant cette prophétie, il s'affirme comme étant lui-même celui qui doit venir, mais surtout il désigne Jean comme son propre messager. En fait, c'est le prophète le plus proche de la venue de Dieu. C'est le dernier qui va venir. Après lui, il n'y en aura pas d'autre, puisque le règne des cieux va s'approcher. Et comme si on n'avait pas compris, Jésus rajoute avec toute la solennité nécessaire, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand. Plus grand, peut-être pas un acte merveilleux, mais plus grand à cause de son rôle exceptionnel de héros de Dieu. Dans l'Antiquité, le héros, hein, ça s'écrit Heraut, hein, c'était celui qui criait, qui passait dans les villages pour annoncer que le roi allait passer. L'image est forte. Et même quelques versets plus loin dans notre lecture, Jésus le désigne comme l'Élie, hein, l'Élie qui devait venir, c'est-à-dire un rôle semblable à celui du prophète Élie. Petite parenthèse, s'il est qualifié de plus petit dans le royaume des cieux, c'est seulement pour dire qu'il ne connaîtra pas les privilèges de la nouvelle alliance. Ce qui, bien sûr, ne disqualifie en rien sa foi, hein, ou sa dignité. Alors, Jean-Baptiste, c'est un grand prophète, mais il a quand même des faiblesses. Hein. Que dire du précurseur? Que dire de celui qui avait préparé le chemin du Seigneur, qui avait même baptisé le Seigneur, qui avait proclamer avec autorité ses convictions, qui avait vu le signe, ce signe au moment du baptême, cette colombe qui descend du ciel et cette voix qu'il entend. Et bien malgré cela, Jean-Baptiste émet des doutes. Bien sûr, il a été arrêté juste au moment où le ministère de Jésus a commencé. Il n'a pas pu voir tout ce que Jésus a fait. En lui appliquant une prophétie de Malachie, hein, j'envoie devant toi mon messager, Jésus s'affirme comme étant lui-même celui qui doit venir. Mais surtout, il désigne quand même Jean comme son messager, le prophète le plus proche. Alors, les doutes de Jean-Baptiste étaient semblables peut-être à ceux de ses contemporains. En tout cas, c'est ce que l'on peut imaginer. Des doutes qui portaient sur sa messianité, sur la messianité de Jésus. Et on peut se le demander en entendant cette question, lorsque Jésus dit, mais est-ce que tu es bien celui qui doit venir? Justement, à l'époque, la conscience d'une prochaine venue du Messie était très forte. Mais pour beaucoup, Jésus n'était que le fils de Joseph, un simple charpentier, sans richesse, sans argent, sans relations, sans armée, juste avec autour de lui une équipe de gens de conditions humbles. Alors que pour un juif, le Messie, ça devait être quelqu'un de glorieux, puissant pour délivrer Israël, pour chasser les armées romaines hors de Palestine. Jean-Baptiste avait aussi dans l'idée, en pensant à Jésus, il avait une idée de sa dignité. Il avait bien dit: Je ne suis pas digne de lui délier ses chaussures. Alors, est-ce qu'il partageait les idées de ses contemporains sur le sujet? Difficile à aller jusque-là, difficile de dire cette chose. Mais quand même, son séjour en prison, c'était quand même quelque chose qui était bien de nature à remettre les choses en question. Je crois qu'on imagine mal le désarroi de l'épreuve qu'il a connue. Et on peut bien imaginer qu'il y ait des circonstances où on a besoin d'un secours particulier. Alors, oui, Jean-Baptiste, un grand prophète qui doute, mais Jésus ne lui en tient pas rigueur. Aucun reproche ne lui est fait. Alors, peut-être ses doutes sur la messianité de Jésus semblent réels, mais Jésus va réagir et va répondre. Et je note que dans les évangiles, parfois, on a le cas où Jésus s'abstient de répondre, où Jésus s'abstient de dissiper le doute de certains. Et même quelquefois, à cause du manque de foi de ses compatriotes, eh bien, soit il fait moins de miracles, ou même il quitte son auditoire. Eh bien, ici, c'est pas pareil. Sa réponse n'attend pas. Une question lui est posée, et c'est une question à laquelle il ne peut pas ne pas répondre, dans la mesure où elle est sincère, dans la mesure où elle attend une réponse. Jean avait probablement entendu parler des guérisons qu'il avait opérées, mais ses envoyés rapporteront ce qu'ils ont vu et entendu. Alors, ce sera le témoignage de ces signes du royaume de Dieu. Ça, c'est un premier élément de la réponse. Et même le texte de Luc parallèle, qui raconte ce même événement, ajoute que c'est à l'instant même que Jésus opère des guérisons. Mais ce n'est qu'un élément de la réponse. Ici, Jésus lie ses miracles à une prophétie. Alors, ça passe inaperçu quand je l'ai lu, peut-être. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf. C'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35. Je crois que ce recours à la citation d'Ésaïe, c'est une manière de confirmer à Jean qu'il ne s'était pas trompé. Un recours aux Écritures pour dire à Jean que c'était prévu dans le dessein divin. Alors que conclure de ce récit? Un grand prophète s'est trouvé tenté par les conceptions erronées de son époque, peut-être de son milieu, assailli par des épreuves qui le font douter de tout ce qu'il a vu de Jésus. Et nous, qui ne sommes pas des grands prophètes, pourquoi échapperions-nous à ce pouvoir corrosif des contrariétés ou des épreuves? Comment pouvons-nous échapper à l'influence de notre siècle? Chose toujours insidieuse. Alors il me faut dire que la réponse de Jésus renvoie principalement aux Écritures. Donc, il me semble que notre fréquentation régulière de ces Écritures et leur accomplissement peut nous donner, dans les moments d'épreuve, d'autres repères, nous donner une autre vision des choses, nous donner la possibilité d'avoir un autre jugement. Un autre aspect du problème à notre niveau, à présent. Je pense à l'étonnement que l'on peut éprouver de voir un fidèle qui doute. Et s'il nous arrive de douter à nous, on peut bien se demander si ça ne risque pas de troubler les autres. les autres, dans l'Église par exemple. Il se trouve que, à défaut de devoir se montrer un exemple aux autres, on a l'impression qu'il vaut mieux ne pas donner de mauvais exemples, ce qui est une bonne chose. Mais est-ce qu'il faut le faire à tout prix? Est-ce que c'est une faute d'être tenté? Est-ce que c'est une faute de connaître les doutes? Lorsque Jésus a été conduit au désert pour être tenté, c'était conduit par l'Esprit de Dieu. N'y a pas d'autre raison. Alors bien sûr, on en a certainement d'autres, mais en soi, de se poser des questions, ce n'est pas le problème. Alors justement, il ne faut pas en rester là. Et c'est justement l'attitude de Jean-Baptiste qui n'en reste pas là, qui parle, qui exprime ses doutes, non pas à tout le monde, mais à Jésus lui-même. Alors on peut ne pas oser, par une sorte de culpabilité, en se disant que ce n'est pas bien de douter, en se forçant peut-être un peu. Eh bien, je crois qu'il vaut mieux penser à cette prière telle que Jean-Baptiste l'a formulée par le moyen de ses disciples. Une prière qui exprime nos doutes, même les plus importants. C'est elle qui nous permet de garder nos liens avec Dieu. C'est une prière qui attend une réponse, donc avec une disposition à l'écoute. Je veux dire par là une écoute patiente de la parole de Dieu. Justement, c'est en citant la parole de Dieu que Jésus répond. Quelle est notre conception de Dieu? Est-ce que c'est celle d'un juge qui nous attend à chaque tournant pour nous pénaliser? Ou est-ce que c'est celle d'un père? Justement, notre récit nous dévoile l'attitude du Fils qui est venu pour faire connaître son Père et qui nous comprend. Et là, je fais référence à l'Épître aux Hébreux, qui, en parlant de Jésus, dit, qui a été tenté comme nous, qui peut nous comprendre. Sa réponse n'est pas celle que l'on peut craindre. Elle n'est pas forcément immédiate non plus. Et il faut la chercher dans la prière, dans cette prière et dans sa parole. Quoi qu'il en soit, nous pouvons en être sûrs. Ce qu'il veut pour nous, c'est quand même bien le meilleur. Je crois qu'on peut se dire les uns aux autres et nous le répéter, courage, courage à chacun. Le Seigneur est avec nous, même particulièrement dans nos difficultés, dans nos questions, dans nos doutes. Confiance. Amen. Je vous invite à quelques instants dans le silence, dans le recueillement. Nous te remercions, notre Dieu, pour ta compassion. Nous te remercions aussi parce que grâce à l'incarnation de ton Fils, nous pouvons être assurés que tu nous comprends. Quel soulagement! Le Seigneur, conduis-nous aussi sur ce chemin, comme nous l'avons chanté, vers la vérité. Amen.